Ça nous a pris 3 mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop beau. Pour les vacances, nous avions un bateau.
You. Bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde.
Voilà, bonjour Jean-Marie.
Bonjour Arnaud.
Bonjour Will à la technique. Bonjour Paulina.
Paulina, notre technicienne.
Voilà. Bonjour auditrices et auditeurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une compagnie de navigation.
Ouais.
Qui est lié,
même de deux, hein.
Oui, qui est lié à l'histoire de l'Algérie. Ouais. Alors, la première, c'est Schiaffino. Ouais. Voilà.
Ouais, alors, ce que je dois dire, c'est que si j'ai voulu parler de cette compagnie de navigation, c'est à titre un peu personnel. Je suis né à Oran, qui, comme chacun le sait, est un grand port de l'Algérie, côté un peu ouest plutôt. Et dès mon enfance, j'allais pas mal, c'est-à-dire très souvent, traîner sur le port. Hein ? Non, t'es d'accord avec moi ?
Ah, ben, si
souviens,
tu le dis...
Moi, à l'époque, hein ?
Ah non, j'étais pas là-bas.
C'était irrésistible, il me fallait régulièrement entendre tous ces bruits du port, ce trafic, et aussi ces relents de mer, aussi des relents de gasoil, hein, aussi, de poissons pourris un peu, tu sais, enfin, comme tous les ports. Hein.
Oui.
De vieilles et sombres, de vieilles planches, de vieux cordages, les sirènes des cargos et le staccato des diesels, tu sais. Il recharge les batteries, là. Le sombre et inquiétant ressac qui battait les quais, le puissant raclement sonore des coques sur les défenses de quais. Tu sais, les défenses, c'est ces gros pneus qu'il y a sur les bords pour pas qu'on racle la maçonnerie. Là. Et ces docks tellement sales et tellement vivants, cette ambiance qui était celle des ports avant qu'ils ne deviennent des terminaux à conteneurs, sans aucune personnalité, bien sûr, déshumanisé, et que comme ça, toute la magie proprement maritime disparaisse à 99%, il faut bien le dire. Hein. Alors évidemment, sur le port d'Oran, il n'y avait pas que les Schiaffino et les Le Borgne, dont on va un peu parler, mais leur cargo était tellement omniprésent, tellement reconnaissable aussi, surtout pour les Schiaffino. Et la seconde compagnie aussi présente, c'était Le Borgne, et là, et inévitablement, son nom me faisait penser à ce corsaire ou ce pirate avec son bandeau sur l'œil. Comme disait Machin, quand on est borgne, c'est toujours que d'un œil. Quoi.
Ah ben, je ne la connaissais pas, celle-là. Moi, connais l'expression « Chez les aveugles, les borgnes sont les rois ».
Ah, bon, je ne sais pas.
Ah, oui.
Jamais été chez les aveugles. Alors, on va évoquer d'abord la Schiaffino, et puis on va un peu parler de la Le Borgne, la compagnie. Hein.
Oui.
Qui, ma foi, est un peu moins significative, peut-être. Enfin, en tout cas, dans mon esprit à moi. La Schiaffino a été une compagnie maritime intimement liée au développement économique de l'Algérie et puis aussi à son parcours historique. Ce sont deux aspects qui sont, je crois, quelque part indissociables. Pour évoquer ce qu'a été cette compagnie, on doit citer en vrac le vieux port de Sète, mais aussi celui de Rouen, le commerce des vins, des céréales et des phosphates, la construction et la mise en place des relations entre les dockers et leurs patrons, autant que la marine dans la guerre. Bref, une entreprise qui se maintient aussi à Alger en 1962, après le chambardement que l'on sait, bien sûr. Hein.
Mm-hmm.
Les Schiaffino, c'est peut-être l'ouvrage le plus historique de ce qu'on pourrait appeler « Mémoire d'homme, histoire d'entreprise », et qui abonde en anecdotes et en réflexions proprement, à nous faire découvrir les métamorphoses, les aléas et les rouages qui se relie, qui se compose et aussi parfois inévitablement qui s'oppose, ou même, et heureusement aussi, qui se complète dans cet univers multiple qui est celui de l'être humain, de la société humaine. Hein. On va d'abord tracer les grandes lignes de cette saga dans le temps et ensuite on va la détailler.
Oui, alors effectivement, c'est en 1874 qu'est créée la compagnie Schiaffino Frères, qui se spécialise alors dans le service côtier.
Voilà.
C'est en fait ce qu'on appelle le cabotage. Hein.
C'est ça.
Ici, il faut préciser qu'il y a 3 sortes de transport maritime dans le classement administratif français.
Mm-hmm.
Le cabotage dit national, le cabotage international et le long cours.
D'accord.
Et pour Schiaffino, ce fut, en tout cas dans ses débuts, le cabotage national, étant entendu que l'Algérie était intégrée au territoire français au plan politico-administratif.
Exact.
Voilà. En 1892, la compagnie Schiaffino s'associe avec l'armement Franceschi sous le nom de Franceschi Schiaffino et compagnie.
La tienne.
En 1894, elle fusionne avec une autre compagnie, l'armement Achac, sous le nom de Franceschi Schiaffino Achac et compagnie. En 1897, elle s'associe cette fois avec la Société des lignes côtières de Nières et Sitges. Et ici, on comprend que cette dénomination de lignes côtières évoque justement le cabotage. Hein.
Le cabotage.
Terme cabotage, eh bien, littéralement, c'est la navigation de cap en cap.
Hein. D'accord, côtier quoi.
Voilà. À ce moment, le nom de cette compagnie devient Société de Navigation Côtière Algérienne.
D'accord.
En 1908, elle s'associe avec l'armement Jouvet, qui avait son siège à Boudji, qui est un port de moyenne importance à l'est de l'Algérie, et cette fois sous le nom de Charles Schiaffino, Alphonse Jouvet et compagnie.
D'accord.
En 1919, l'armement Achac reprend ses avoirs et se sépare de l'armement Schiaffino, et de son côté, Laurent Schiaffino, le fils de Charles, crée la compagnie Laurent Schiaffino.
D'accord, c'est une génération qui se
suit. De son propre nom.
C'est ça.
En 1960, la compagnie compte un effectif de 21 navires.
D'accord.
Quand même.
Oui,
hein.
Oui.
Cette compagnie appartenait entièrement à la famille Schiaffino et les bateaux étaient le plus souvent baptisés du prénom des membres de la famille.
Oui, oui, c'est vrai. Je me souviens très bien de ça. Alors maintenant, après cette vue d'ensemble, hein, globale,
oui.
Revenons quelques décennies en arrière. Alors, c'est le grand-père d'origine génoise qui, lui, était un armateur de balancelles à Alger.
Qu'est-ce que c'est, les balancelles ?
Alors, les balancelles, c'est des petites goélettes méditerranéennes. Certaines étaient gréées, on voit l'aurique, certaines étaient gréées, on voit le latin. C'est, voilà,
d'accord.
Hein, voilà. Alors, qui apporte en France... Alors, c'est donc c'est le grand-père en question.
Oui, oui.
Qui apporte
Joseph.
En France, voilà, la fameuse dépêche relatant le... tu t'en souviens sans doute, les problèmes qu'il y a eu avec le dé d'Alger. On en parlera peut-être après. On dit que cette fameuse dépêche fut en quelque sorte confiée au bateau le plus sûr.
Ah.
Et en l'occurrence, un Schiaffino... qui, lui, commandait le brick Stella. Stella, c'est l'étoile, hein, évidemment. C'était en 1827. Petit rappel historique. On sait que le dé d'Alger, le dé était alors une sorte de gouverneur représentant à Alger. Alger, c'était Jazira. Le sultan ottoman, puisque le territoire était une colonie turque.
D'accord.
Avait réclamé à la France les sommes qu'il avait avancées lors de la campagne d'Égypte de Bonaparte. C'était alors sous le régime du Directoire qui a suivi la révolution de 1789. Et son bain de sang, bien sûr. Et à ce propos, on ne sait pas trop ce qui s'est alors passé, mais le dé, donc ce vice-roi, voilà, assez remonté par les reculades et les atermoiements du Directoire, qui tardait beaucoup trop à honorer sa dette. Le dé, donc, passablement impatienté, aurait légèrement souffleté le consul de France qui a envoyé cette fameuse dépêche dont on vient de parler tout à l'heure, qui a été confiée donc au bateau Schiaffino,
oui.
Voilà, pour le ramener en France, pour faire part aux autorités de cet outrage. Hein, bon. Un outrage qui, au-delà du consul lui-même, a affecté, bien sûr, le pays, la France.
Oui.
Mais les Schiaffino, bien avant déjà... Déjà avant 1758, d'ailleurs, les balancelles Schiaffino, ces petits caboteurs à voile de type goélette ou brigantin, ce que je viens de dire tout à l'heure, d'environ 20 mètres de long, faisaient commerce avec tous les ports de la Méditerranée à partir de Gênes, qui était leur port d'attache. Et ils commerçaient en particulier avec la régence d'Alger. Alors, Alger, qui était le siège du dé, qui lui représentait donc la sublime, ce qu'on appelait la sublime porte, c'est-à-dire l'Empire turc ottoman, dirigé en théorie en tout cas par le sultan d'Istanbul. Alors évidemment que la piraterie barbaresque sévissait en Méditerranée, depuis le Moyen-Âge d'ailleurs, et même avant. Mais les navires qui ravitaillaient Alger étaient non pas épargnés, mais plutôt escortés.
Ah, carrément.
Et même protégés par cette même piraterie barbaresque, et pour cause. Le commerce est nécessaire à tout le monde. Il ne connaît pas la guerre, le commerce. Le commerce, c'est le commerce. Ah. Si ça s'arrête, tout s'arrête. Surtout lorsqu'on paye, évidemment, le racket. Si tu payais le racket, personne ne te touchait. Ben oui, c'est normal. En 1845, on a la trace d'un Giacomi. Giacomi, c'est Jacques. Mm-hmm. Scafino, un sarde, mais dit génois. C'était un sarde, mais on disait que c'était un génois, ça faisait mieux dans le paysage. Ah. Qui est le fils de Laurent, qui lui était né en 1803. Prolifique, il avait eu 6 garçons. Laurent, Ange, Jean-Baptiste, Pascal, Antoine et bien sûr Giacomi. Mm-hmm. Une fratrie qui s'étage entre 1833 et 1847. Et tous étaient nés à
Alger. D'accord.
Voilà. On peut aussi rappeler que depuis juin 1830, l'Algérie, qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça, bien sûr, était occupée par l'armée française. Et voilà. Et là, on attend quelques vagues, peut-être quelques petites vaguelettes méditerranéennes.
Dans le port, contre les bateaux de la compagnie Scafino. Ouais. Voilà. Ah ouais. Alors, c'est le 19 juin 1862 que Laurent, fils de Giacomi, dont on vient de parler, qui est né en 1833, il était capitaine d'une des balancelles du port d'Alger. Ouais. Et donc, il épouse Catherine Figot. Ouais. Et le 9 août 1863, ils ont un garçon prénommé Jacques. En 1874, est créée à Bougy la compagnie Schiaffino Frères, qui se spécialise dans le transport maritime côtier, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Il faut bien voir qu'à cette époque, eh bien, les routes elles sont tortueuses, mal fichues, sans le moindre revêtement. Les véhicules sont hypomobiles, ce sont des charrettes hein, ou et des autres diligences.
Et, oui.
Et la sûreté des transports terrestres n'est pas assurée non plus.
Et oui.
C'est pour ces excellentes raisons que le transport maritime est encore ce qu'on pouvait faire de mieux. Mmh. Donc, fortement lucratif et en pleine activité, bien sûr.
Et voilà. Il y avait moins de bandits sur l'eau que sur terre.
Et oui. En plus, la Méditerranée n'est pas très large et on peut commercer avec l'Espagne, la Corse, la Sardaigne, les îles Baléares, l'Italie, la Sicile, la Grèce, Malte et bien sûr la France. Ou encore bien la Tunisie, le Maroc. Et tout ça à la voile.
À la voile.
On comprend que le moteur n'existait pas encore.
La voile, ça ne fait pas de CO2. Ouais. Hein.
Et puis, il faut s'agrandir, viser d'autres choses, évoluer. Ouais. Et comme on l'a vu, eh ben, Schiaffino, il l'a bien compris. Mmh. On doit ou bien s'associer, s'adapter, ou alors prendre le risque de disparaître.
Hein. Et oui, c'est le commerce.
Voilà, c'est ça. On l'a vu vite fait. La compagnie donc s'associe avec Franceschi en 1892 et avec Achac en 1894. La séparation avec Achac, c'est en 1919. Mmh. La compagnie Schiaffino, elle, a disparu dans les années 1990.
Oui, alors on va voir maintenant de plus près l'histoire de cette famille Schiaffino. C'était une famille de marins devenus armateurs. Leur histoire débute à l'époque où Gênes commerçait avec les côtes barbaresques. Parce que malgré la piraterie, on l'a dit, le commerce n'a jamais cessé. Soit que les négociants passaient des accords avec le dé, on appelait ça la régence d'Alger, soit qu'ils payaient une taxe. La taxe est toujours une sorte de raquette. Mais il faut bien le reconnaître. Nous sommes tous raquettés plus ou moins d'ailleurs.
Allez, continue le sujet.
Au syndicat des capitaines pirates qu'on appelait... Alors, le syndicat des capitaines pirates, ça s'appelle la Taïfa des Raïs.
Ah.
Alors, ils avaient une sorte de laissez-passer qui leur permettait d'éviter de se faire détrousser. Mm-hmm. Ils avaient été détroussés avant, donc on ne pouvait pas les détrousser deux fois. Hein. On peut faire en gros remonter la saga de cette famille vers les années 1750. En 1830, le corps expéditionnaire du général de Beaumont débarque dans la baie de Sidi Ferruche à l'ouest d'Alger. Alger est rapidement investi par ses troupes et dans la foulée, les premiers Schiaffino s'installent réellement en Algérie pour y être accognés. pour certains, et pour d'autres, patrons manutentionnaires, ceux qui gèrent les dockers et le trafic sur le port. Une entreprise d'aconnage, c'est celle qui se charge de l'embarquement, du débarquement des marchandises et de l'arrimage à bord. Ceux qui sont responsables de ça. C'est un terme surtout qui est utilisé en Méditerranée.
D'accord, j'allais te demander ce que c'était. C'est,
ben, voilà, les aconiers, c'est
on
ça.
On a l'explication.
Ouais. Le développement économique de l'Algérie, avec la mise en culture des terres et diverses activités autres, a permis à cette famille de participer au commerce intense qui s'est alors développé entre la France et les territoires d'Afrique du Nord, qu'on appelle aussi Maghreb, Algérie, Maroc et Tunisie. Mm-hmm. Maghreb, en arabe, ça veut dire l'Ouest, hein ? Ce qui est à l'Ouest. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'Ouest, d'ailleurs. À l'aube de l'indépendance de l'Algérie, le dernier d'entre eux, Laurent, était à la tête de la plus grande flotte de commerce local réalisant le trafic avec la métropole. Il était propriétaire d'un journal, il était sénateur, évidemment, et il présidait la Chambre de commerce de l'Algérie, ce qu'on appelait la région économique d'Algérie. En même temps, Laurent Schiaffino était à l'image de ses ancêtres, un véritable marin. Ah. Ce n'est pas simplement un gestionnaire, c'était un marin. Il a été engagé volontaire en 1915, il avait tout juste 18 ans, et à cet âge, il était déjà titulaire d'un brevet de lieutenant au long cours et engagé dans les effectifs des sauveteurs maritimes. Lors de la bataille des Dardanelles, dont peut-être certains ont entendu parler, hein, voilà, en Turquie là-bas, il va même commander un sous-marin et il sera démobilisé avec le grade d'enseigne de vaisseau de première classe, de galon, or, dans la marine, en 1919, c'est-à-dire à 22 ans. Il n'est pas perdu son temps. Hein.
Ouais.
Il rejoint alors la société algérienne de navigation Charles Schiaffino et compagnie, qui a été créée le 13 janvier 1920 et dont le siège est au quai nord du port d'Alger. Cette compagnie assure alors les lignes régulières du transport maritime entre les côtes algériennes et la France. Mmh. Alors Charles, donc le père, décède en juillet 1920. Et à partir de ce jour, le S qui orne les cheminées des navires de la compagnie est marqué de larges bandes noires. Eh oui, le deuil dans la famille. Laurent épouse à Paris Marie-Louise de Maniquet-Vauberet, s'il vous plaît, madame. Mmh. Autant dire que la finance, puisque les armateurs du début versaient forcément dans la finance, s'allie à l'aristocratie. Les deux Maniquet Vauberet, sans être des grands aristos, était nantis d'un titre de petit noble. À partir de 1926, Laurent est PDG de la Société méditerranéenne des combustibles et il cumule d'autres fonctions de direction, président des armateurs d'Algérie, du Conseil algérien du crédit, etc., etc. Il avait beaucoup de cordes à son arc, cet homme-là. C'est une période active en termes de gestion de l'économie au sens large. Sont publiés des centaines d'articles dans des revues spécialisées qui traitent des questions du commerce, bien sûr, et de l'activité maritime, ainsi que de nombreux rapports et études sur la situation économique de l'Algérie, de l'Afrique du Nord, je veux dire, autant de sujets qui participent à la modernisation et à la mise en valeur de ces, évidemment, de ces territoires.
Et oui. Alors si au tout début, la compagnie n'exploitait que des navires rachetés à d'autres compagnies plus importantes, entre 1920 et 1930, Laurent Schiaffino fait construire ses premiers bateaux neufs.
D'accord.
C'est des bateaux qu'il dessinait lui-même.
Ah d'accord. Ouais. Ouais.
D'abord, 4 unités pour la ligne sur Rouen, ces lignes étant exploitées au grand cabotage.
C'est ça.
Ces navires portant les noms de Monique, Ange, Marcel, Charles. Et par la suite, eh bien, 2 pour la ligne sur 7, qui se sont appelés Jacques et Catherine, et avec le nom Schiaffino, bien sûr.
Schiaffino, bien sûr.
Comme on le voit, tous ces navires portaient les prénoms de la famille, mais par la suite, d'autres furent baptisés Ville de Daylis, de Bouji, de Djidjeli, et il en baptisera même un qui s'appellera Notre-Dame d'Afrique,
d'accord,
et qui sera même surnommé le Petit Notre-Dame d'Afrique.
Le Petit, oui.
C'était là, la Vierge Noire protectrice des marins et des naufragés des côtes d'Afrique du Nord.
Oui.
et auprès de laquelle eh bien, les membres de ces confréries de marins se rendaient annuellement en pèlerinage. Hein.
Oui.
Un peu comme à Marseille, la Bonne Mère, peu chère.
Hein.
On peut voir là ressurgir les traditions italiennes.
Hein. Oui, forcément.
Alors, de 1934 à 1939, sont réalisées des liaisons régulières avec la Corse.
Mmh.
En cette année 1939, la compagnie Schiaffino possède 17 navires. Elle va en perdre 8 durant le conflit de la Deuxième Guerre mondiale, hein, en 1939-45.
Oui, ouais.
En 1949, Louis-Charles, le fils de Laurent, et qui était alors âgé de 14 ans, est emporté par la maladie.
Ah.
Hélas, les navires de la compagnie auront ordre de ralentir lorsqu'ils passent au large de l'entrée du cimetière où repose le fils de Laurent.
D'accord.
Oui. C'est en cette année 1949 que Laurent est élu président de la région économique d'Algérie et président de la chambre de commerce d'Alger, des fonctions qu'il va conserver jusqu'en 1962, l'année où l'Algérie accède à l'indépendance, comme on le sait.
C'est ça.
Laurent est l'un des principaux actionnaires de la Dépêche quotidienne, une parution qui existe à partir de 1949.
Mmh.
En 1952, il devient gérant de la société algérienne de navigation Charles Schiaffino et compagnie. Et en 1953, il rédige une note intitulée « L'Algérie et son avenir ».
D'accord.
Il est bien évident que dans les sphères de la haute finance et de la politique, bien des choses étaient sues, voire même tracées, quant à ce qui allait advenir en Algérie.
Ouais.
Et comme bien chacun le sait, qui démarre en novembre 1954, appelée la Toussaint Rouge.
Ouais. Alors, nous sommes sur Radio Albigès. Avec
Jean-Marie
et l'inévitable, l'incomparable Armand.
Non, pas tant. Sur 95.4.
Oui, et 104.2.
Voilà, dans l'émission.
Dessine-moi un bateau.
Absolument.
Avec toujours
et ben les deux mêmes
sujets sur la mer et les bateaux.
Voilà.
C'est ça.
Exactement.
Voilà, les vagues se sont un peu calmées. Hein. On reprend la route.
Hein. Oui.
Sa forte implantation conduit Laurent à se présenter aux élections sénatoriales le 19 juin 1955 en tête de la liste pour la défense des départements français d'Algérie qui remporte dans le premier collège d'Alger les 3 sièges à pouvoir. Il obtient 482 voix des 597 suffrages exprimés. Ses interventions à la tribune portent sur des questions qu'il connaît à fond, bien sûr. Les problèmes relatifs au rapport qu'il dépose au nom de la commission de la marine et des pêches sur le système de jaugeage des navires, parce que là, il y a beaucoup de dispositions administratives assez compliquées.
Mm-hmm.
L'aide à la construction navale et aux communautés économiques françaises et européennes en 1957, ainsi qu'aux institutions et aux élections en Algérie en 1958. Et c'est en 1954 que l'école d'apprentissage maritime est installée à Alger sous le patronage de, évidemment, Laurent Schiaffino. Le Rose Schiaffino, qui est construit en 1956 à Port-de-Bouc, hein, près de Marseille, là-bas,
oui,
va naviguer sous les couleurs de la société algérienne de navigation Charles Schiaffino jusqu'en 1980, assurant une ligne régulière France-Algérie. Lorsque Laurent disparaît, en 1978, la compagnie se reconvertit dans le transmanche et poursuit son activité jusqu'en 1994. Mais cette fois, sous la direction du gendre. Et le gendre de Schiaffino, c'était Henri de Clermont-Tonnerre. Grande famille française. C'est dire que la famille de marins génois s'était à nouveau associée, et cette fois à une plus grande famille aristocratique. Alors l'histoire de la famille Schiaffino est une saga pluriséculaire, on va dire, hein.
Mm-hmm.
S'étale sur plusieurs siècles. Au-delà de l'aventure d'une famille sans doute exceptionnelle, cette aventure nous fait découvrir le système si particulier des conférences maritimes qui sont en fait dans les systèmes économiques des organes stratégiques où les entrepreneurs privés sont amenés à s'entendre sous l'égide de l'État, puisqu'il s'agit de mettre au point des stratégies, des ententes qui participent de manière très influente aux politiques, évidemment, commerciales des États. Et ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Alors, ce n'est rien d'autre que ces carrefours de gestion des économies d'un pays et même de plusieurs, où la puissance publique est de fait dans l'obligation, économique évidemment, de s'associer aux intérêts d'entrepreneurs privés. Hein. C'est un peu ce qu'on appelle aussi l'économie qu'on appelle mixte. C'est aussi un des aspects de ce qu'on nomme aussi donc l'économie mixte, puisqu'elle s'associe intérêts privés et intérêts publics. Évidemment que ces dispositifs présentent des dangers, ça présente aussi des tentations. Avantages et inconvénients vont toujours de pair. Des passages obligés dans le domaine du donnant-donnant, du fameux gagnant-gagnant, hein, aussi, voilà.
On appelle ça comme ça aussi.
Ouais. La tentation est souvent grande de donner dans les abus, les conflits d'intérêts, les corruptions et autres trafics d'influence. Ça, je crois que ça a toujours existé et ça existera toujours. En 1957, lors de la signature du traité de Rome, il concerne la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. C'est le fameux acte fondateur de la communauté économique européenne. Et c'est celui aussi de l'Euratom, qui est le traité concernant l'énergie atomique en Europe. À cette occasion donc, Laurent regrette que les départements qui forment l'Algérie en union intime, aussi bien douanière que monétaire, avec la métropole, ne soient pas traités comme tous les départements métropolitains. C'est vrai qu'il y avait des différences au point de vue économique, administrative, qui compliquaient les choses. Les 2 et 3 juin 1958, Laurence Cafino, qui vient de voir proroger son mandat de sénateur d'Alger, vote pour la reconduction des pouvoirs spéciaux en Algérie, accorde les pleins pouvoirs au gouvernement, et il approuve aussi la révision constitutionnelle. Ça, c'est ceux qui ont vécu ça, savent de quoi je parle. La révision constitutionnelle de 1958, hein? Non, ça te dit rien ?
Moi, non. J'étais gamin encore.
C'est la constitution instituée par De Gaulle, hein, tout simplement, en 1958. Hein, et révision en 1962. Hein, c'est la constitution qu'on a actuellement, hein, au régime présidentiel. Hein. Bon, tirez la manette.
En 1960,
la compagnie Scafino compte 21 navires. Donc, peu avant la signature des accords d'Évian, le 18 mars 1962, il déclarait à son gendre: je suis français d'Algérie, je suis président de la Chambre de commerce d'Alger. Ça, tout le monde le savait. Hein. Il ne faisait qu'exprimer une évidence. Or, les seules évidences n'ont jamais apporté quoi que ce soit aux situations existantes. Hein. C'est évident, c'est tout. À partir de 1975, Laurence Cafino va reconvertir son armement, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, dans la navigation transmanche. Laurence Cafino décède en 1978 à Paris. La société poursuivit alors son exploitation sous la direction de son gendre, M. Henri de Clermont-Tonnerre, jusqu'en 1994, où elle est cédée à la Sally Line, le musée de la marine de Paris, au Palais de Chaillot. Pas si tu as eu l'occasion de le voir.
Non, pas encore.
À Paris, compte 5 maquettes des Scafino.
Ah.
Ouais. Toutes offertes par l'armement Scafino, bien sûr, qui avait pour habitude de commander systématiquement un modèle réduit au chantier de construction navale, avec lequel la compagnie signait un contrat de construction pour un nouveau navire. Ah. Chaque fois, il devait lui donner la maquette avec.
D'accord.
Voilà.
Alors voyons maintenant la seconde compagnie maritime, la compagnie Le Borgne.
Le Borgne.
Alors le berceau de la compagnie Charles Le Borgne se situe en Normandie, à Fécamp, d'où est originaire la famille fondatrice Le Borgne, comme le nom l'indique.
Et je note que là aussi, il y avait un Charles.
Ah bon. Ouais. Ce n'est qu'en 1924 que la compagnie installera son siège social sur l'artère la plus prestigieuse de Paris, qui est bien sûr les Champs-Élysées,
oui.
Comme chacun le sait.
Ouais.
Hein, et bon, ils sont un peu loin d'Alger quand même. Hein.
Bien sûr.
Alors la maison Le Borgne, comme son président a toujours voulu la nommer, est certainement la plus vieille maison d'armement maritime française encore existante.
Ah bon.
Elle a été transmise de père en fils sans interruption depuis 1735, vivant de ses seules ressources et sans aucune aide de l'État.
Ah.
Faut le noter.
Oui.
Ce qui, à notre époque, est tout simplement remarquable.
C'est pas faux.
Voilà. À la direction de la compagnie se sont succédés, alors de 1735 à 1943, uniquement des Le Borgne.
Mm-hmm.
Et de 1943 à 1986, c'est Philippe Joubert, le gendre de Charles Le Borgne, qui en a repris la direction.
D'accord.
soit 250 ans d'histoire de transport maritime pour une même compagnie. C'est pas mal.
C'est pas mal.
Au cours des périodes troublées de l'histoire, ces vaisseaux furent amenés à combattre notamment au XVIIIe siècle comme corsaires du roi, ensuite sous le Premier Empire et enfin pendant les deux grandes guerres de 14-18 et de 39-45. À noter que pendant la Première Guerre, 5 navires de la compagnie furent coulés et 3 navires furent cités à l'ordre de la nation pour leur action dans les combats contre des sous-marins allemands. Ces navires, c'était Saint-Antoine de Padoue, Radium et Charles Le Borgne.
D'accord.
C'est Augustin Le Borgne qui, succédant à son père, passera un certain nombre de navires à la navigation au long cours. C'est également lui qui armera 4 navires pour la pêche lointaine sur Terre-Neuve. Et ça s'est fait sous la raison sociale, la Société Fécampoise de Pêche.
D'accord.
Bien sûr, sous l'égide de la compagnie Charles Le Borgne.
D'accord.
Alors, en se retirant en 1902, Augustin Le Borgne transmet la direction de l'entreprise à ses 2 fils, Augustin et Charles, qui administreront la Société Le Borgne Frères. C'est l'époque de prospérité du port de Fécamp et les frères Le Borgne vont créer une usine de séchage de morue de conception entièrement nouvelle qui commercialisera la morue sous le label Le Corsaire et qui va permettre aux navires de Terre-Neuve et d'Islande de revenir directement à Fécamp pour le séchage du poisson au lieu de se diriger comme autrefois sur Bordeaux ou même plus loin sur le midi de la France.
D'accord. Ah ouais, voilà, justement, un navire qui s'apprête à rentrer au port.
Voilà. Alors, à cette époque, en 1902, est également armé le premier navire chalutier à vapeur de Fécamp, partant en campagne sur les bancs de Terre-Neuve et l'Islande,
ouais,
avec utilisation dorénavant de guindeaux à moteur. Hein.
Ouais.
Petite précision, le guindeau est le treuil à axe horizontal utilisé pour les navires pour relever l'ancre.
C'est ça.
Et ce bateau est également équipé de sennes tournantes.
Ouais.
Alors, la pêche à la senne est une technique de pêche très ancienne qui consiste à capturer les poissons à la surface en pleine eau en les encerclant à l'aide d'un filet de pêche qui est appelé donc senne.
S2NE.
Voilà. Donc, représentant une modernisation plus efficace et bien moins pénible pour l'équipage.
Ouais, c'est vrai que...
En 1902 déjà, donc.
Surtout que là-bas, il fait froid, là-bas, hein, sur ces latitudes.
Ouais, sur les bancs de Terre-Neuve et sur l'Islande,
là-bas. Il ne fait pas chaud.
Ah.
En 1908, Augustin Le Borgne, en accord avec son frère Charles, se retire de la succession pour prendre en charge une activité de travaux publics.
Ah, c'est tout autre chose, ça.
Voilà. Charles Le Borgne assume seul la direction de la compagnie.
En 1909... T'as été à Terre-Neuve, c'est pour
non,
ça
non, non, j'y vais pas là-bas. Il fait beaucoup trop froid pour moi.
Ah bon.
Non, non. Je vais plutôt en Andalousie, moi.
Ah.
En 1919, l'entreprise se classe au premier rang des maisons d'importation de charbon.
Ah.
Parce qu'habite. À l'époque, les bateaux marchaient au charbon.
Eh oui.
Enfin, les chaufferies au charbon. Le tonnage s'élèvera jusqu'à 1 million de tonnes par an. Elle saisit l'opportunité à cette époque pour créer des usines d'agglomérés de houille à Saint-Malo, à Saint-Servan, à Nantes et à Rouen et va fabriquer annuellement 300 000 tonnes de briquettes et de boulets hein, qu'on peut charger plus facilement dans, dans les chaudières. On rappelle qu'à cette époque, évidemment, on fonctionnait à la vapeur.
Hein. Et oui.
Voilà. Il y en a qui étaient à voile à vapeur aussi, mais ça c'est autre chose. Quand il y avait du vent, quoi. C'est seulement en 1924 que Charles Le Borgne se tourne vers la Méditerranée et fait l'acquisition à Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'était à côté de Port-de-Bouc, d'ailleurs. Hein,
c'est oui, c'est dans la région de Marseille,
ouais,
là-bas.
Oui, c'est tout à côté. De vastes entrepôts et de terrains bord de quai, comme on appelle ça les docks.
D'accord.
Les docks, c'est anglais, ça. Hein. La compagnie va être propriétaire d'environ 80% des terrains, bâtiments et habitations sur ce port, tout proche de Marseille, qui va ancrer l'installation profonde de la compagnie Charles Le Borgne dans le sud, car en même temps, d'autres succursales seront ouvertes à Alger et à Oran, qui permettront l'exploitation de sa première ligne de transport maritime, des transports réguliers en Méditerranée. Viendront ensuite les succursales de Marseille, de Lyon et pour l'Algérie, de Philippeville, de Bougie et de Beaune, devenues maintenant respectivement Skikda Béjaïa et Annaba. Petite anecdote au passage, le mot bougie n'est apparu dans la langue française qu'au XIVe siècle.
Ah.
Il est tiré de Bougaïa, qui est la transcription en arabe du mot berbère Bgayet. Le nom d'une ville maritime d'Algérie, Bougie, actuellement, se prononce Béjaïa.
D'accord.
C'est cette ville qui fournissait une grande quantité de cire utilisée à la place du suif dans les chandelles, hein, puisqu'on oui. s'éclairait à la chandelle à l'époque, hein, et qualifiée alors de bougie, du nom de la ville. Hein. Sur le plan terminologique, cette appellation devrait donc être réservée à un instrument d'éclairage fait exclusivement de cire d'abeille.
D'accord.
Intéressant, non ?
Ah, oui, oui, mais c'est toujours intéressant.
En 1929 sera créé, alors on reprend le cours du...
De l'histoire de la compagnie.
On arrête cet aparté. En 1929 sera créée la succursale de Rouen, qui sera suivie de celle de Boulogne-sur-Mer en 1933 et des agences de Dunkerque, Calais et Brest. 6 lignes maritimes furent ainsi créées à terme, dont 2 au départ de Rouen vers le Maroc
et l'Algérie.
Les autres desservant l'Algérie, la côte est algérienne et l'Oranie. Mais depuis Marseille et Sète, hein, c'est-à-dire ces lignes-là partaient de Marseille et Sète.
Oui.
Donc bien que le Borgne se soit mis bien plus tard sur les rangs, il mettait le turbo, ou plutôt la turbine, pour coiffer Scafino, qui lui était bien plus antérieur sur ce secteur et sur
Ils étaient concurrents donc.
Et oui, hein, oui, mais, oui, forcément. Hein. De nouveaux navires seront commandés, dont certains au Canada, tels Joséphine Le Borgne et Charles Le Borgne. Les autres viendront des chantiers du Bigeon, près de Saint-Nazaire. Il s'agira des navires Marie-Thérèse, Marie-Agnès, Pierre, Augustin, j'en passe, et des meilleurs.
Oui, toujours des prénoms.
Ah oui, ouais, de la famille. Hein. Vient ensuite Albert Le Borgne, etc. Voilà. Hein, voilà. Et le dernier, donc, qui était Albert Le Borgne, qui sera mis sur la ligne Rouen, Casablanca, Alger et Bonn.
D'accord.
Annaba. Voilà. Et après, alors ?
Et ensuite, eh bien, après l'indépendance de l'Algérie et la nationalisation des sociétés étrangères, la compagnie devra se replier en France, abandonnant ses points d'implantation et rapatriant son personnel vers les succursales de la métropole.
Eh oui.
Le président Jacques Joubert, après une tentative infructueuse de desserte de la Corse par ses navires, préférera alors vendre sa flotte et reconvertir partiellement son activité en agence maritime, créant en cela un réseau de 17 agences dans les principaux ports français.
D'accord. C'est un autre métier, ça.
Voilà. Compte tenu de l'excellent état d'entretien des navires, ceux-ci trouveront immédiatement acquéreurs dans différents pays. Ainsi, l'Albert Le Borgne passera sous pavillon saoudien, tandis que l'Augustin sera acquis par la compagnie marocaine de navigation qu'il rebaptisera Sidi Slimane.
D'accord.
De leur côté, Marie-Louise et Marie-Thérèse seront les derniers navires vendus et modifiés pour le transport de bestiaux pour l'armement hollandais Brandebresken.
D'accord.
Jacques Joubert s'est toujours refusé à suivre la tendance économique de l'époque qui va conduire beaucoup d'armateurs à mettre leurs navires sous pavillon de complaisance étranger, entre autres Panama, Malte ou Chypre, hein, avec des équipages du tiers-monde, afin de compenser les surcoûts supportés par les marines européennes. Donc ça, il l'a refusé, Jacques Joubert.
Ah, oui, oui.
En 1986, après le décès du président Jacques Joubert, et compte tenu des difficultés de gestion de plus en plus importantes que va connaître la vie portuaire et maritime en général, la succession décidera de vendre la compagnie Charles Le Borgne à la CGM, la Compagnie Générale Maritime, ou plus exactement à la STIM, et ce, par l'intermédiaire de la financière de l'Atlantique,
oui,
qui est une société holding du groupe CGM. Alors, la STIM transférera ultérieurement l'acquisition, comme il était initialement prévu, à la Compagnie Générale Maritime.
CGM.
On sait tous, enfin plus ou moins tous, comment fonctionne le monde de la finance, hein,
ah ben on le sait,
avec les labyrinthes, les sociétés écrans. Je n'insisterai pas davantage sur ce sujet.
Non, inutile.
Voilà.
Ça nous tombe sur les pieds. Alors la CGM, bien que compagnie nationale, se trouve en difficulté, décidera la revente de la compagnie Charles Le Borgne le Born à partir de... J'ai crève, hein. De janvier 1991. La société CLB Liner, agence maritime de ligne régulière, sera ainsi créée à cette date et passera sous le contrôle du groupe Saga en 1991.
Ouais.
Dans le même temps, les autres branches d'activité, telles le tramping, alors le tramping, c'est un... Je ne sais pas si c'est quelque part... Non. Le tramping, c'est une... Ça consiste... Le bateau, il va dans un port, il attend les ordres de l'armateur, il charge ou il décharge, il va dans un autre port, il attend les charges de nana, voilà.
Ouais, il n'a pas de ligne régulière. Quoi.
Non, voilà. Il attend les ordres de l'armateur. Okay. D'ailleurs, si tu vas un jour à Port-la-Nouvelle, tu verras au large de Port-la-Nouvelle deux ou trois bateaux qui sont à l'ancre, mm-hmm. et ils attendent les ordres, des fois, je dirais, plusieurs jours. Hein. Ouais. Le transit et le camionnage, donc c'était dans le même temps les autres branches d'activité, donc c'était le tramping, le transit. Ça aussi, ce sont des branches très particulières, parce que c'est le système du transport. Hein. Mm-hmm. Et le camionnage resteront quand même sous l'appellation Charles Le Borgne, société anonyme, d'abord en location gérance par WJ Service. WJ désigne un joint, ce qu'on appelle joint venture, entre le groupe Worms, qui est une banque, hein, et la Saga, mm-hmm. qui est une grosse boîte financière. Alors, le joint venture, c'est une association libre de sociétés entre elles. Hein,
d'accord.
À risque partagé, etc. etc. C'est assez compliqué. Mm-hmm. C'est du droit commercial, hein, c'est international. Hein.
Oui, oui.
Alors, ça s'appelle joint venture, mais c'est, normalement, c'est joint venture. Mm-hmm. C'est anglais. Hein. Et ensuite, en appartenance propre à ce même groupe financier Saga. Mm-hmm. Voilà. Alors, joint venture, évidemment. Ici, un aparté pour indiquer ce qu'est donc un joint venture. Je viens de te le dire.
De le dire, ouais.
Ça, et voilà. Ça permet surtout de rentrer sur des marchés protégés,
d'accord.
donc de type protectionniste. Et là, on rentre dans des systèmes financiers qui sont assez complexes,
mais...
avec la puissance publique en même temps. Hein. Enfin bon, on l'a évoqué tout à l'heure. Le groupe Saga revendra l'agence de ligne CLB Liner au groupe financier, là aussi, Sofinco, voilà, très implanté dans le transport maritime et terrestre. Ce qui va redonner du dynamisme à une structure très malmenée, c'est 10 dernières années. Ah. Le CLB Liner a réussi depuis le dernier achat par le groupe Naxco, et alors ça c'est des groupes hyper internationaux, mm-hmm. a retrouvé son entière activité, puisque la société traite maintenant également les opérations de tramping sous le nom premier de Compagnie Charles Le Borgne. Ils sont revenus au nom
d'origine.
Et ouais, sa tradition, ça fait bien d'être traditionnel. Retrouvant ainsi sa pleine vocation d'agence maritime du début du XXe siècle. Alors, les familles fondatrices Le Borgne et Joubert n'apparaissent plus du tout dans la société, mais l'image de la compagnie d'origine reste quand même très présente.
Et oui.
Ici, encore une précision, le tramping consiste à faire du transport à la demande, c'est ce que je viens de te dire. Hein. C'est à la demande. Hein.
Uh-huh.
Comme tu l'as évoqué, au contraire, des irrégulières. Quoi.
Voilà.
Oui, tramp, en anglais, c'est le vagabond. Hein. C'est un vagabond. C'est des bateaux vagabondeurs. Voilà, fin de la partie, les affaires, le commerce, ça va, ça vient. Et quand ça vient, ça va, c'est comme l'argent. Hein. L'argent, ça va, ça vient, et quand ça vient, ça va. Game over.
Oui,
Game over.
Et ben, c'était l'historique et l'histoire de la compagnie Le Borgne et de la compagnie Schiaffino.
Et voilà.
Fin de l'émission, merci pour votre écoute et à une prochaine fois. Bye bye.
Voilà, on évoquera un autre sujet.
Bien sûr.
Ce sera moins administratif et moins commercial.
Ça nous a pris 3 mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop beau. Pour les vacances, nous avions un bateau.